pour récapituler très brièvement les points d'analyse que nous avons eus hier. Et j'aborderai immédiatement le sujet de ce soir. Et je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que je vais essayer d'abord d'orienter l'introduction d'après les questions qui m'ont été posées après le cours, un peu dans les coulisses, si j'ose dire. Alors la première remarque, c'est que vraiment, si vous avez des questions qui se posent à vous, posez-les pour tout le monde, de telle sorte que ça puisse enrichir l'étude pour tout le monde. Vous arrivez à entendre? Non? M'en doutez, je ne sais pas pourquoi. Bien, je disais que je vais reprendre très brièvement la mise au point des analyses que nous avons eues hier, mais en tenant compte de questions qui m'ont été posées après l'étude. Par conséquent, si vraiment des questions se posent à vous, n'hésitez pas, malgré la timidité, à les poser pour tout le monde. La deuxième remarque est d'un tout autre ordre. Il est possible, me dit le technicien, que subitement le disjoncteur défaille. Ne vous affolez pas, la lumière reprendra immédiatement après. Bon. Hier, nous avons surtout étudié deux points. D'abord, la différence formelle de définition du tzaddik, et l'homme de la vertu de tzedek, c'est-à-dire de la justice, de l'adéquation à la loi, la différence formelle qu'il y avait entre deux des personnages principaux de l'histoire telle que la Torah la raconte à ce propos, c'est-à-dire Noah, qui est le premier homme à être défini comme tzaddik par le texte biblique, et d'autre part Abraham. Cette différence, c'est que la vertu de justice chez Noah est définie de façon formelle, c'est-à-dire, si on peut dire ainsi, compte non tenu de la révélation de la loi morale vraie. Noah est un tzaddik au niveau de la bonne volonté. Il préfère le bien au mal, pour le dire de façon schématique, quelle que soit d'autre part l'expérience qu'il a de la connaissance du bien et du mal. Il est possible que ce ne soit qu'une connaissance relative, qu'il ne s'agisse pas du tzedek absolu, du mishpat tzedek, du jugement de vérité morale, mais il y a une vertu du juste qui apparaît en lui au niveau de l'attitude de la volonté. Tandis que Abraham est défini comme étant le juste de la vérité morale absolue et compte tenu de la révélation de la connaissance de la loi morale. Et je reprendrai en première partie, immédiatement après, un certain nombre de références qui vont enrichir de nouveau cette différence. Ceci dit, un certain nombre de questions se sont greffées à propos de cette différence et nous en arriverons à un deuxième point qui se relie à l'analyse que nous avons eue hier sur la notion de tzedaka. Je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier trois notions, tzedek, tzedaka et mishpat. Et nous avons étudié hier un passage de la Gemara qui définissait la tzedaka dans son ambivalence de sens, à la fois justice et charité, et il s'agit simultanément d'une charité qu'il est un devoir de réaliser, et d'autre part, une justice qui tient compte des impératifs de la charité, si j'ose dire. C'est-à-dire que hier, nous avons étudié le terme de tzedaka par rapport au terme de chesed. Et aujourd'hui, nous reprendrons cette analyse de la notion de tzedaka dans un deuxième sens, qui est celui de la justification, un peu dans le sens hébreu de hatzdaka, la vertu en tant que justification. Elle n'est pas nommée tzedek, qui est la vertu de justice absolue, qui n'a donc pas à être justifiée d'autre part par un surcroît de, par une atténuation de la rigueur du jugement, par une introduction de l'attitude de miséricorde dans le jugement. Le tzedek parle par lui-même, c'est la justice vraie. Mais la tzedaka, c'est une justification, et nous aurons aussi un certain nombre de références à étudier à ce sujet. Et puis en deuxième point d'étude, ça nous mènera tout naturellement à réfléchir à la fonction du juste par rapport au salut, c'est-à-dire à la fonction salvatrice du juste, le juste comme protection de l'histoire. Et nous retrouverons cette fois un texte que nous étudierons avec le Maharal, où nous retrouverons la différence qu'il y a entre le niveau de tzaddik tel que nous l'avons découvert chez Noah, la vertu de justice formelle au niveau de la bonne volonté, et d'autre part, le niveau du tzaddik chez Abraham. La manière dont cette fonction de Yeshua, de salut, de protection que représente le juste dans le monde, la manière dont cette fonction joue est aussi différente chez Noah et chez Abraham. Voilà ce qui est grosso modo le programme de la réflexion de ce soir. Et puis la troisième étude aura lieu jeudi soir sur la définition des différentes catégories du juste. Alors, en ce qui concerne le premier point, et je rappelle que la première indication que nous donne la Bible dans le récit de l'histoire de Noah est que Noah a été sauvé par grâce. C'est donc que le texte et le contexte considèrent qu'il n'a pas de mérite suffisant pour être sauvé de par sa propre vertu. Cependant, il est nommé tzaddik. Ce n'est pas n'importe qui a été sauvé en Noah, c'est une première étape du développement de l'identité humaine vers son authenticité et vers la conformité à l'ordre de la création. Tandis que chez Abraham, il va nous être dit explicitement que la définition de la vertu pour lui se relie à la connaissance de la véritable loi morale. Nous allons prendre cette première référence dans le livre de la Genèse. Je vous donne la référence des versets. C'est donc à partir du verset 18, du verset 17 du chapitre 18 de la Genèse. Nous nous trouvons au début de la paracha de Vaera, qui sera lue d'ailleurs cette semaine, et une série d'événements sont annoncés, en particulier le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Je voudrais faire une très brève parenthèse introductrice avant d'aborder le fond du sujet. Et nous mirons dans ce texte de la paracha de Vaera toute une accélération d'événements qui vont établir la distinction de nature entre l'humanité qui procédera d'Abraham et l'humanité jusqu'à son temps qui se trouvait en quelque sorte disqualifiée par cette séparation. Ce sont les premiers textes où se particularise déjà l'alliance du Créateur avec cette manière d'être homme qui procédera d'Abraham, mais corollairement et de façon assez paradoxale, l'humanité contemporaine d'Abraham semble être disqualifiée. Et nous verrons tout à l'heure qu'il n'en est rien, sauf un certain nombre de sociétés, en particulier la société de Sodome et de Gomorrhe, qui va être effectivement condamnée de par l'apparition de la vertu de justice chez Abraham. Le paradoxe est le suivant. C'est que nous verrons Abraham plaider pour le salut de Sodome et de Gomorrhe. Et cependant, il semble bien que, d'après la cohérence même du récit, si Dieu décide le jugement de Sodome et de Gomorrhe à ce moment-là, c'est parce que Abraham est devenu tzaddik. Voici comment s'organise le récit. Le premier texte de ces récits dans la paracha de Vaera, c'est la fameuse apparition des trois anges à Abraham. Au moment où Abraham est encore malade de l'opération de la circoncision, et le texte nous le décrit comme attendant à la porte de sa tente les voyageurs qui passeraient sur le chemin, de telle sorte de leur fournir l'hospitalité. Et voilà qu'effectivement, trois hommes passent, et Abraham, j'insiste sur ce point, à deux niveaux, bien que malade, préoccupé de sa propre maladie, de son propre sort, bien que d'autre part assuré de son propre salut, puisque pour la première fois dans l'histoire, dans la cohérence du récit biblique, l'alliance va être scellée avec Abraham, Abraham est sauvé, et le signe de ce salut, c'est la circoncision qu'il a acceptée. Donc bien que Abraham soit à l'abri de ce souci de la destinée humaine pour lui, cependant, et dans la plus grande difficulté d'être qui est la fièvre de l'opération de la circoncision, cependant, il reste disponible pour la vertu d'hospitalité. Et le Midrash explique que si Abraham, à ce moment précis, n'était pas allé au-delà de ses passagers, disons de ses passants, eh bien, il se serait dévoilé que la mission dont étaient chargés ses envoyés, ses anges, se serait résorbée, et que l'histoire aurait attendu, un sursis supplémentaire aurait été donné à tout ce qui se passait dans le monde, jusqu'à ce qu'apparaisse vraiment un homme tel que le récit l'attend en Abraham, c'est-à-dire bien que déjà à l'abri de la disqualification de l'histoire qui est le propre de l'humanité de son temps, il reste cependant disponible aux vertus de Tzedaka, à la vertu de Tzedaka. En d'autres termes, si vous voulez, si on ne refait pas le récit, l'histoire à l'envers, on ne peut pas recomposer le récit sinon par hypothèse, c'est-à-dire si Abraham n'avait pas eu le courage de sa propre vertu, même dans ce moment le plus difficile, eh bien, les événements qui sont annoncés dans la suite auraient été résolus. Alors, il apparaît que parce que Abraham est vraiment Abraham, immédiatement après, Sodome et Gomorre vont être jugés. C'est-à-dire, d'une autre manière, que l'apparition de l'envergure d'Abraham comme tzaddik déclenche la fin du sursis qui a été donné à Sodome et Gomorre. Et c'est pourquoi, assez paradoxalement, mais très normalement, Abraham va se sentir responsable du plaidoyer pour Sodome et Gomorre. En quelque sorte, c'est par sa vertu qu'il a été cause que ce sursis a été suspendu et a pris fin. Si vous voulez, tout cela répond à la question suivante. Comment se fait-il que c'est à ce moment précis que la société injuste de Sodome et de Gomorre, connue comme telle depuis très longtemps, se trouve être jugée? C'est parce que le tzaddik est apparu dans l'histoire. Je pense avoir été suffisamment clair sur ce point. Or, voici précisément comment Dieu annonce à Abraham ce qui va se passer à Sodome et à Gomorre. En tout cas, pour bien reprendre cette introduction, tant que la mutation de l'identité en Abraham n'est pas vraiment évidente, alors les hommes de Sodome et de Gomorre ne sont qu'une des sociétés de l'humanité telle qu'elle existe de manière naturelle, et par conséquent il n'est pas urgent de les juger du point de vue de la vérité absolue. Mais à partir du moment où cette mutation est apparue quelque part, elle disqualifie tout ce qu'il y a dans le même temps. Nous avons d'autres exemples de ce principe dans le récit biblique. Je vous ai donné aussi encore une autre illustration. C'est au moment de la sortie d'Égypte, lorsque Moïse est à la tête du peuple et qu'il est l'objet d'un certain nombre de contestations, en particulier de la contestation de Korach, de Corée, et Moïse demande le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu se réalise et le peuple tout entier voit que c'est bien Moïse qui a raison, puisque Dieu est intervenu pour punir Corée, Korach et ses acolytes, disons, ses chassidiques, à lui. Or, il y a un verset assez étrange. À ce moment, le peuple se tourne vers Moïse et lui dit, à peu de choses près, « Est-ce que tu veux notre mort à tous? Est-ce que tu veux finalement que nous mourions tous ?» Et cette phrase du peuple, alors qu'il vient d'assister de façon évidente au jugement de Dieu qui disqualifie Korach et qui justifie Moïse, est assez étrange. Les commentateurs l'expliquent de la manière suivante. Par rapport à Moïse, s'il y a un jugement entre Moïse et d'autres hommes, inévitablement, quiconque serait disqualifié. Je veux dire que l'apparition du plus juste, si j'ose dire, disqualifie tout autre. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette accélération des événements qui nous sont racontés dans cette paracha, dans cette sidra, et en particulier le jugement de Sodome et de Gomorre. Et voici effectivement, et là nous arrivons à notre premier point, Abraham défini comme juste par rapport à la véritable loi morale. Comment le texte introduit? Alors je lis simultanément en hébreu et en français, jusqu'à ce que nous arrivions à l'expression qui concerne le sujet. Ve'Hachem Amar, et Dieu a dit, Hamchase ani me Abraham, est-ce que je vais cacher d'Abraham, Hacher ani osé, ce que je fais? C'est-à-dire, est-ce que je vais agir, intervenir dans l'histoire en tant que juge, sans expliquer à Abraham, si vous voulez, les attendus du jugement, la manière dont le mishpat, dont le jugement va intervenir dans l'histoire, peut-être d'établir qui est tzaddik et qui, au contraire, est racha. Ve'Abraham, hayo yihir, le goy gadol ve'atsum, Or, Abraham est destiné à être, doit devenir, à lui, et deviendra sûrement, Goy Gadol Akum, une nation grande et puissante, Vénibre Rubo Kolgoye Aaret, et se béniront, seront bénis en lui, à travers lui, par lui, grâce à lui, Kolgoye Aaret, toutes les nations de la terre. C'est donc une deuxième indication. Premièrement, il y a une raison pour laquelle Abraham doit recevoir cette pédagogie de la manière dont le Mishpat, le jugement de Dieu, intervient pour définir qui est tzadi et qui ne l'est pas. Deuxième indication, c'est que nous retrouvons les termes de l'analyse du Talmud que nous avons eu hier. C'est Abraham qui est destiné à devenir Goy, la nation par excellence. Vous rappelez à quoi cela fait allusion, c'est-à-dire la nation qui se définit par rapport au problème moral, comme acceptant, comme prenant sur elle la moralité elle-même, comme la légalité. Seule une société humaine, selon le vocabulaire biblique, qui est dans ce cas, pour qui c'est la moralité elle-même qui est la légalité, a le droit de recevoir le nom de nation, en hébreu, goy. Ce qui est dit de deux manières, indiqué de deux manières dans les deux parties du verset. Dans la première, vers Abraham, c'est Abraham qui est destiné à être la nation unique, selon l'analyse notamment hier. Et d'autre part, venir le Kubo, Kol Goye Aret, et d'autre part, seront bénis par lui toutes les autres nations, éventuellement, de la terre. J'ouvre une toute petite parenthèse pour vous citer un enseignement assez étrange qu'on trouve dans la Gemara à ce sujet. Et il est écrit, et seront bénis en lui toutes les nations de la terre, Kol Goye Aret. La Gemara de Yevamot ajoute l'indication suivante. À Filus Finot, Abaot, Migalia et Aspania. Ce qui signifie même les bateaux qui vont de la France à l'Espagne. Écrit comme ça. Et Enim Barachot et la Bishvil Israël. Même ces bateaux ne sont bénis que pour Israël. Bon, les commentaires sont extrêmement divers et variés sur cette phrase assez étrange. Je vous récapitule simplement le principe de base. Même des nations qui, en principe, ne procèdent pas de la descendance d'Abraham et qui n'ont contact avec Israël, dit en particulier le commentaire de Torah Tenima, que parce qu'elles ont donné leur bateau pour transporter les exilés d'Israël à travers les différents exils, et bien qu'elles n'aient eu contact avec la descendance d'Abraham en Israël que de cette manière négative, la bénédiction qui peut les atteint à travers Israël. Et cette indication était importante. Je continue au verset 19. Qui est d'artive, je vais lui faire connaître, sous-entendu la manière dont j'interviens, les ma'am, asher et tzavei banav et beto acharav, afin qu'il prescrit, qu'il ordonne, qu'il enseigne, qu'il éduque, et Banab, ses enfants, et Beto Aharav, et sa maison après lui, les Chamourou de Rechachem, et ils observeront les conduites de Dieu, la Rassot, Tzedaka ou Mishpat, afin d'agir selon la Tzedaka et Mishpat, selon la justice et le jugement. Il y a dans ce verset une indication extrêmement importante, c'est que la manière dont Abraham est défini comme tzaddik se trouve être précisée par rapport à la révélation de la loi morale absolue. C'est-à-dire que la vocation du juste selon Abraham est bien définie en relation à la connaissance de la véritable loi morale. Et nous avons là une première référence extrêmement importante qui nous permet de distinguer entre le juste selon Noach et le juste selon Abraham. Je reprends très brièvement cette distinction. Le juste selon Noach, eh bien, cela peut être n'importe quel homme, de n'importe quel point de l'humanité qui accède à la vertu de bonne volonté, qui préfère le bien au mal, quelle que soit d'autre part l'expérience qu'il a du contenu de la table de valeur à laquelle il se relie, qu'elle procède par son éducation, par son intuition morale subjective, spécifique, ou par tel ou tel autre procédé de la culture humaine qui le relie à une table des valeurs. Et par conséquent, n'importe quel homme, en principe, peut être tzaddik selon Noir. Tandis que le tzaddik d'Abraham se définit bien évidemment par rapport à la loi morale révélée, et nous avons là une référence claire à ce sujet. Nous verrons en second lieu tout à l'heure comment cela déjà justifie, explique, introduit le fait que la fonction salvatrice du juif selon Abraham et du juif selon Noir n'est évidemment pas la même. J'aborde immédiatement une deuxième référence qui reprend cette notion de tzedaka par rapport à un épisode de la vie d'Abraham et qui la relie à la notion de la foi. Dire de même que hier nous avons réfléchi à la relation qu'il y a entre justice et charité, eh bien, cela nous mène maintenant à réfléchir à la relation et à la distinction à faire entre foi et justice, du point de vue déjà de la catégorie de la justification. Comme vous le savez, c'est un problème qui est pendant et qui est en question dans la controverse entre la théologie juive et la théologie chrétienne en particulier, et je voudrais vous citer déjà comment cette controverse apparaît au niveau des commentaires. Il s'agit du verset 6 du chapitre 15 de la Genèse. Voici d'abord quel est le contexte. Dieu promet à Abraham une descendance, c'est-à-dire il lui promet que la mutation d'identité qui est apparue à son niveau ne sera pas stérile, que Abraham ne sera pas simplement une exception qui est apparue dans l'humanité et où, une fois, un homme a décidé de considérer que le sens de l'histoire humaine était la loi morale. Et c'est la première fois que le juste de la loi apparaît. On aurait pu imaginer une histoire humaine qui serait restée dans la préhistoire morale qu'elle a connue depuis les premiers temps, et puis où, de temps en temps, en tout cas ici pour la première fois, apparaît une exception, un juste. Et par conséquent, on imaginerait corollairement que l'humanité, après Abraham, aurait fait d'Abraham un être de légende, un mythe, et le héros de la moralité, et probablement aurait rendu un culte à cet être d'exception apparu une fois. La manière dont Dieu s'adresse à Abraham est tout autre. Il lui parle en le considérant comme l'initiateur d'une lignée, l'initiateur d'un peuple, d'une postérité, l'engendreur d'une manière d'être homme qui commence avec lui et qui se multipliera sur la terre. Et d'ailleurs, le nom de père, Av, est déjà inscrit dans le nom d'Abraham. Abraham, il est par définition le père, c'est-à-dire l'engendreur. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout destiné à être cette exception qui serait apparue une fois, qui serait à l'origine d'un mythe, par exemple, mais le fondateur d'une nation, qui en fin de compte apparaîtra avec Israël, à la troisième génération de la descendance d'Abraham, après la sélection d'identité que nous raconte la Bible depuis Abraham jusqu'à Jacob, devenu Israël. Et dans cette promesse qu'Abraham aura un fils, dans cette promesse qu'Abraham aura une descendance, il y a toute une épaisseur de révélation du point de vue du sens de ce que sera l'histoire d'Israël. C'est que l'identité d'Abraham sera féconde, que cela ne sera pas simplement la réussite de l'identité humaine sur un point d'elle-même et qui ensuite se résorberait dans la préhistoire morale telle qu'elle nous est racontée par la Bible jusqu'au temps d'Abraham, mais qu'il y aura fécondité et qu'il y aura multiplication de l'identité d'Abraham, qu'il y aura donc une nouvelle humanité qui va surgir à partir d'Abraham du vivant de l'humanité de son temps. Et il faut qu'il y ait une promesse, parce que cela n'est pas du tout quelque chose à quoi l'on peut s'attendre de manière naturelle. Et qu'Abraham soit apparu, c'est un miracle possible, disons, mais que ce ne soit pas qu'une exception, qu'à partir d'Abraham il y ait une postérité, c'est quelque chose en soi d'incroyable tant que cela n'est pas encore arrivé. J'essaye de préparer ce que va nous dire le verset. Il a fallu qu'Abraham ait confiance, foi, émouna, dans cette promesse que Dieu lui donne, qu'Abraham sera le père d'une multitude d'Abraham, de fils d'Abraham. Enfin, qu'Abraham sera le père d'une humanité nouvelle qui sera à la manière d'Abraham. Le fait que l'identité du juste soit capable d'engendrer, et d'engendrer littéralement une humanité qui sera donc par hérédité dans les mêmes catégories d'identité que celle d'Abraham lui-même, est quelque chose qui, à ce moment-là, apparaît comme surnaturel et donc objet de foi. Et c'est ce que dit le verset. Malgré le caractère incroyable de cette promesse, qu'Abraham aura des enfants qui seront des fils d'Abraham, pas seulement des petits hommes qu'on rattachera à lui par l'état civil, mais que cette identité sera féconde et se développera, qu'elle deviendra un peuple, c'est-à-dire une humanité, eh bien, et lorsqu'Abraham entend cette promesse, il doit faire effort de foi pour la recevoir. C'est ce que dit le texte, « Vehe min bachel » et Dieu a, je vais d'abord traduire, comme on traduit habituellement, a cru, a eu foi en Hachem, en Dieu, « Vehe vehalo tzedaka » et il a considéré cette promesse comme une charité, c'est d'accord dans le sens de charité, comme une grâce que Dieu lui fait. Ça, c'est la lecture de Rashi. Non, c'est la lecture de Nachmanim. Je reviendrai ensuite sur la controverse des commentateurs. En tout cas, c'est une première lecture du texte. Je reviens sur le contenu du verset. Vehe emin bachel. Et il a eu confiance, il a cru, il a eu foi en ce que Dieu lui dit, va y archever alors, c'est d'accord, et il a considéré pour lui comme une miséricorde, comme une charité. En fait, il faut d'abord préciser la signification de ce terme de emuna qui est employé ici. Et je dirais de façon générale que dans le vocabulaire biblique et dans le vocabulaire de la tradition juive par la suite, ce contenu de la catégorie de la foi n'a pas d'abord une signification intellectuelle. En particulier, s'il est pour aller au problème théologique de fond, nous ne trouvons pas dans la thématique de la pensée juive traditionnelle qu'il y ait un problème de la foi en l'existence de Dieu. Que l'objet de la foi, que l'objet de la émouna, serait la croyance que Dieu existe. À ce niveau, il y a certitude, il y a expérience, qui est de l'ordre de la révélation, et secondairement aussi, connaissance intellectuelle. Mais je veux dire que ce n'est pas une idée qui est objet de foi dans l'enseignement de la Bible. C'est toujours une promesse. C'est-à-dire l'analyse de la catégorie de la foi, c'est le fait de faire confiance en une promesse qui a été faite. Je pense que c'est suffisamment clair. La Emouna est donc définie comme une vertu qui n'est pas d'abord de l'ordre intellectuel, qui est une vertu de l'ordre moral, de faire confiance dans la promesse qui a été faite. Et c'est une vertu qui est donc nourrie d'optimisme, d'une certaine manière, mais d'autre part aussi d'un pari sur la possibilité de l'incroyable. Lorsque nous sommes avancé dans le temps et que les promesses ont commencé à se réaliser, la réalisation des promesses s'intègre dans l'historique et donc dans le banal du quotidien, alors on ne perçoit plus toujours le caractère, si vous voulez, exorbitant de la promesse à l'origine. Imaginons l'état de l'humanité au temps de Sodome et Gomorre et au temps de tous ces bouleversements qui s'annoncent lorsque c'est l'immoralité qui est la règle des sociétés humaines, le fait qu'il y ait l'annonce, la promesse que l'homme deviendra tzaddik, qu'Abraham sera fécond et sera à l'origine d'une humanité de tzaddikim, que l'histoire humaine peut avoir un aboutissement au niveau de la moralité, c'est une annonce incroyable. Et nous sommes tellement habitués intellectuellement, depuis l'enseignement biblique, depuis les millénaires de l'enseignement biblique, au caractère, si vous voulez, familier de cette notion que l'espérance est qu'un jour la moralité triomphe, que nous ne percevons plus le caractère incroyable même dans le contemporain. Et il y a contraste absolu entre l'état de la réalité et le contenu de cette promesse. Et par conséquent, ici, la foi, dans le sens de la émouna dont parle le texte, dans le sens de faire confiance à une promesse qui a été faite, est une authentique vertu. Cela ne va pas de soi qu'Abraham, croit et foi à ce qui lui est annoncé ici. Il entend quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et cela est vrai d'une façon générale de toutes les promesses qui font l'objet de la foi. Que le monde sera un jour tel qu'il aurait dû toujours être. Il y a contradiction entre le contenu de ce qui est proposé dans cette promesse et d'autre part la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Je greffe immédiatement une deuxième question. Qu'est-ce qui fait le contenu, la densité de cette vertu de confiance, puisque c'est Dieu qui promet? Et où est le mérite de croire? Lorsque Dieu promet, qui est par définition tout-puissant, eh bien, où se trouverait le mérite de croire? Eh bien, il se trouve dans la connaissance de la réalité. C'est-à-dire que, bien que Dieu promette, cela ne se passe pas encore. Et ce deuxième scandale, si vous voulez, éclaire le premier. Le fait que cela ne se passe pas encore, bien que ce soit Dieu qui l'ait promis, montre qu'il y a bien vertu dans le fait de faire confiance à une promesse, même quand c'est Dieu qui promet. Et par conséquent, cette émouna, dont nous allons de nouveau traduire par foi, qui nous est décrite à propos d'Abraham ici, est une authentique vertu. Le fait qu'Abraham ait cru ce que Dieu lui a promis, était une vertu dans le sens de l'effort, un effort à faire. La réponse de la tradition juive à ce sujet, c'est que Dieu promet, mais il faut qu'il y ait un mérite suffisant de la part de celui qui reçoit la promesse pour que cela se réalise. La question qui est posée par les commentateurs est la suivante, étant donné que c'est Dieu qui a promis, miracle, qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? C'est le fait qu'il faut qu'il y ait un minimum de mérite suffisant pour être celui à qui la promesse a été faite. Et à partir du moment où on devient celui à qui la promesse a été faite, la promesse se réalise automatiquement et sans effort. Et par conséquent, l'effort à faire pour croire était un doute porté par Abraham sur son propre mérite. Le fait que Abraham ait dû faire effort pour croire ce que Dieu lui promet ainsi, traduit le fait que Abraham sait qu'il n'est pas encore authentiquement Abraham. S'il l'était déjà, la promesse aurait été déjà résolue, réalisée et accomplie, bien évidemment. Alors d'où la discussion entre les deux commentaires que je vais vous citer à celui-ci. D'abord, je lis Rachid dans son texte sur la deuxième partie du verset. Et ainsi, il eut foi en Dieu, confiance dans la promesse, le sujet est Abraham. Abraham a eu foi en Dieu. Et il a considéré, le sujet selon Rachid c'est Dieu. Dieu a considéré cette foi, les Abraham, à Abraham, l'iskout de l'istaka. Il a considéré le fait pour Abraham d'avoir eu foi comme un mérite et comme une vertu de tzedaka, et c'est déjà là que nous avons la première indication du sens de justification. C'est-à-dire, le fait que Abraham ait cru que cette promesse pouvait se réaliser, c'est ce qui va faire qu'elle va se réaliser dans la lecture de Rachid. C'est-à-dire, ce courage de croire à une chose pareille, c'est déjà le signe qu'Abraham mérite que cela se réalise pour lui. Et en un certain sens, ici, la foi d'Abraham est définie comme la justification par le mérite lui-même, alors que classiquement, il y a antinomie entre les deux notions. Je reprends donc l'enseignement de Rachid sur ce point, un peu plus attentivement, parce que précisément, Nahmani va inverser la lecture à cause justement de la controverse qu'il y a entre la théologie juive et la théologie chrétienne à ce sujet. Je suppose que vous avez déjà perçu le point de conflit. Rachid fait comprendre que c'est la foi d'Abraham qui va être la raison de l'accomplissement de la promesse. Comme si c'était la foi qui était la vertu elle-même et qu'il n'y avait pas à réaliser le tzedek de telle sorte que la promesse se réalise, que la emuna suffit. Et vous voyez que Rashi ici nous enseigne quelque chose qui est très proche de la manière classique dont la théologie chrétienne analyse ce problème, que c'est la foi qui sauve et non pas les œuvres. C'est la raison pour laquelle Nachmanide va s'opposer à cette lecture. Mais il s'y oppose en sachant qu'elle est vraie. Et il s'y oppose pour une raison historique. Nachmanide nous dit de lire le verset de la manière suivante. « Vehe min vachem » et Abraham a cru dans la promesse que Dieu lui fait. « Vayarche vehalo tzedaka » et Abraham, sujet de, a considéré cette promesse que Dieu lui fait comme une tzedaka. C'est-à-dire que Dieu lui fait une charité. Non pas que c'est la foi qui tient lieu de mérite, mais que, comme nous le fait dire Rashi, et c'est la première lecture qui est la lecture du texte, mais nous dit Nachmanide que le contenu de cette foi consistait à savoir que bien qu'Abraham n'avait pas suffisamment de mérite, Dieu allait quand même accomplir la promesse, malgré, disons, ce non-mérite d'Abraham. En fait, la raison pour laquelle Nachmanide s'oppose à cette lecture de Rashi, c'est parce que Nachmanide a vécu au temps des grandes controverses judéo-chrétiennes en Espagne, et que par conséquent, il a décelé l'utilisation que risquait de faire la théologie chrétienne de cette manière de lire ce verset comme Rashi nous l'enseigne. En d'autres termes, je voudrais dire, si vous voulez, que, quelles que soient les apparences, ici, la lecture de ce verset donnerait raison formellement à la position de la théologie chrétienne, à condition de comprendre de quoi il s'agit ici. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu d'abord à vous citer la première référence, où il est bien évident que la Torah définit l'identité du tzaddik en Abraham au niveau des œuvres, la ratzot, tzedaka ou mishpat. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Donc, reprenons la lecture de Rashi. C'est le fait d'avoir le courage de cette foi dans une promesse incroyable qui lui est faite, qui est déjà l'indice qu'il est bien celui en qui cette promesse peut se réaliser. Cette foi-là est déjà son mérite. Mais il ne s'agit pas du tout de la définition intellectuelle de la foi que nous avons classiquement dans les théologies occidentales, qui est la foi que Dieu existe, et le fait de savoir que Dieu existe, c'est cela qui assure le salut. De cela, la Bible n'a jamais parlé. La Bible nous raconte des promesses que Dieu fait à travers les différentes étapes du développement de l'histoire et qu'il fait en s'adressant à l'homme où l'identité du tzaddik émerge de plus en plus. Eh bien, effectivement, le fait d'entendre ces promesses et d'avoir l'optimisme de croire qu'elles se réaliseront, c'est déjà le signe qu'il s'agit d'hommes qui ont la capacité de le réaliser à travers eux. Je ne sais pas si je suis arrivé à être suffisamment clair. C'est-à-dire que la première vertu du tzaddik, c'est déjà de croire qu'être tzaddik, c'est possible. Et le premier homme qui a pu vivre ce pari d'optimisme, c'est ce premier homme qui a été tzaddik. Dans un monde où tout le spectacle de la vie semble nier que ce soit la vérité morale qui est la loi fondamentale de l'histoire, qu'il y ait une manière d'être homme, une identité humaine qui parie pour cela, que quelles que soient les apparences, être tzaddik c'est possible, et bien déjà dans cette attitude de croyance qu'une telle promesse peut se réaliser, il y a l'identité du tzaddik. Je pense qu'il faut bien distinguer, bien que la distinction est inévitablement très, très fine, il faut bien distinguer entre ces deux notions. Il ne s'agit pas de croire en la vertu et que ça dispenserait, de l'appliquer. Il s'agit de croire que la vertu est applicable, ce qui est très différent. Et le fait que la vertu peut être réalisée, qu'elle peut être réelle, et le fait pour Abraham d'avoir cru à quelque chose de cet ordre, que la justice peut être de ce monde, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une humanité, qu'elle procédera de lui, fera de la loi de son histoire la justice, le tzedek, la tzedaka et le mishpat, le fait de croire que cela est possible à réaliser a fait d'Abraham ce qu'il est de vous. Voilà les deux premières notions que je voulais rappeler pour définir de nouveau la différence qu'il y a entre le juste selon Noir et le juste selon Abraham. Alors nous abordons immédiatement le deuxième point de l'analyse, c'est la notion de tzedaka comme justification. Et bon, voici comment est le problème. Il est bien évident que ce n'est que lorsque l'identité du tzaddik est réalisée totalement qu'il peut être défini comme tel du point de vue du jugement concernant la totalité de son être. Pendant tout le temps où le tzaddik est en effort de devenir tzaddik, il n'est pas encore tzaddik, et c'est là qu'apparaît cette notion de tzedaka, la vertu en train de s'acquérir qui se trouve être définie comme justification. Nous allons le comprendre d'emblée au niveau de la définition du tzaddik en Abraham par rapport à la Torah. On ne peut pas dire qu'à tout instant de sa vie, un homme est dans le cheminement de cet effort, un homme accomplit la loi morale complètement. Il est toujours en train de l'accomplir. Ou de notre manière, il y aurait orgueil à croire qu'à chaque instant de sa vie, ce tzaddik qui est tendu vers l'effort de réalisation de la loi morale peut se définir comme tzaddik achevé, réalisé dans la perfection, dans la shlemut. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous devons considérer qu'en aucun cas, l'effort de nos mérites ne sont vraiment à la hauteur de ce qu'exige la loi. Tout se passe comme si nous sommes chaque fois dans une sorte de substitut de la vertu qui nous est réellement demandée. Que nos efforts n'arrivent qu'à réaliser qu'une approximation, chacun à son niveau, chacun à son degré, de ce qu'est le tzedek. Et cette approximation de la manière dont nous réalisons l'exigence des vertus et l'exigence des valeurs, cette approximation est appelée tzedaka dans le sens de justification. Le fait de pratiquer comme nous en sommes capables, au niveau où nous sommes capables, ce que la loi demande de nous, et bien que nous sachions qu'en aucun cas jusqu'au terme de la réussite, nous sommes vraiment au niveau du mérite qu'elle réclame de nous, mais cette attitude de la bonne volonté est justification. Et bien cela est dit de façon explicite dans le Deutéronome, au verset 25 du chapitre 6. Que je vous lis, « Utsdaka tihielanu, ki nishmor la rasot et kola mitzvah azot, lifne Hashem elokenu, kasher tzivanu. » Et il y aura justification pour nous, tzedaka, ici, à le sens de hatzdaka. « Utsdaka tihielanu » et si vous voulez, en traduction approximative, « et ce sera notre mérite de » Mais en réalité, le texte hébreu dit ceci, « Utsdaka tihielanu » ce sera pour nous une justification qui nishmor la rasot lorsque nous observerons dans le sens de préserver afin d'agir, afin de réaliser, et kol mitzvah azot, tout ce commandement devant le Seigneur notre Dieu, kasher tzivanu, comme il nous l'a ordonné. Et remarquez l'expression qui nishmor la rasot. Nous ne pouvons jamais prétendre que nous avons vraiment réalisé le tzedek, mais nous sommes en attitude de celui qui veut le réaliser. Nishmor la rasot. Nous pratiquons l'observance de cette loi en vue de la réaliser vraiment. Nous sommes toujours, si vous voulez, en tension entre ce qui nous arrive de réussir, d'accomplir, notre approximation, et d'autre part le tzedek que la Torah réclame. Et se dévoile ici une indication extrêmement importante. Le fait d'être dans l'attitude de l'acceptation de ce qu'il y a à réaliser et la justification de notre mérite, même si cela n'est pas réalisé au niveau absolu. Donc nous avons donc bien une deuxième définition de la tzedaka par rapport au tzedek, c'est-à-dire la vertu relative de chacun comme justification de sa bonne volonté et de son mérite. Cette expression du justifié pour définir le juste se trouve être d'autre part employé par le texte au chapitre 25 du Deutéronome, au verset 1. Voici quel est le verset. Qui y est, Riv ben Anashim, lorsqu'il y aura un litige entre des hommes, Benigeshu et la Mishpat, ils seront approchés du jugement.